Voilà à quoi je songeais, réconcilié avec le monde et avec moi-même, observant le gai travail de l'heure matutinale. Et je ne pensais plus à la jeune fille. Autrement dit, je m'efforçais de transformer l'ardeur qui me portait vers elle en un sentiment de gaieté intérieure et de paix dévote. Je me dis que le monde était bon et admirable, que la bonté de Dieu est manifeste, fût-ce chez les bêtes les plus horribles, comme explique Honorius d'Autun. C'est vrai, il y a des serpents si grands qu'ils dévorent les cerfs et parcourent les océans. Il y a la bête Cénocroque, au corps d'âne, corne de bouquetin, poitrine et gueule de lion, pied de cheval à deux onglons comme celui du bœuf, babine taillée jusqu'aux oreilles, voix presque humaine, et à la place des dents, un seul os solidement planté. Il y a la bête Manticore, avec un visage d'homme, un triple ordre de dents, le corps de lion, la queue de scorpion, les yeux glauques, une couleur de sang et la voix pareille au sifflement des serpents, friande de chair humaine. Et il y a des monstres avec huit doigts à chaque pied, et des museaux de loup, des ongles crochus, une peau de mouton et des abois de chien, qui deviennent noirs au lieu de blancs avec la vieillesse, et dépassent de beaucoup notre âge. Et il y a des créatures avec des yeux sur les humérus et deux trous sur la poitrine au lieu de narines, parce qu'ils n'ont point de tête. Et d'autres encore qui gîtent le long du fleuve Gange et ne vivent que de l'odeur d'une certaine pomme, et quand ils s'en éloignent, ils meurent. Cependant, même toutes ces bêtes immondes chantent dans leur variété les louanges du Créateur et sa sagesse, comme le chien, le bœuf, le mouton, l'agneau et le lynx. Comme elle est grande, me dis-je alors, en répétant les paroles de Vincent de Beauvais, la plus humble beauté de ce monde. Et comme il est agréable à l'œil de la raison de considérer attentivement les façons et les nombres et les ordres des choses, si dignement établis dans tout l'univers, mais aussi le déroulement des temps qui incessamment se déploie à travers successions et chutes, marquées par la mort de ce qui est né. J'avoue, en pêcheur que je suis, à l'âme insignifiante encore prisonnière de la chair, que je fus porté alors par une douceur toute spirituelle vers le Créateur et la règle de ce monde, et j'admirai avec joyeuse vénération la grandeur et la stabilité de la création. C'est dans cette bonne disposition d'esprit que me vit mon maître, quand, entraîné par mes pas et sans me rendre compte, ayant presque accompli un périple autour de l'abbaye, je me retrouvai où nous nous étions quittés 2 heures auparavant. Là était Guillaume, et ce qu'il me dit détourna le cours de mes songeries pour diriger de nouveau ma pensée sur les ténébreux mystères de l'abbaye. Guillaume avait l'air fort satisfait. Il tenait en main le feuillet de Venantius qu'il avait enfin déchiffré. Nous allâmes dans sa cellule, loin des oreilles indiscrètes, et il me traduisit ce qu'il avait lu. Après la phrase en alphabet zodiacal, « Secretum finis Africae manus supra idolum age primum et septimum dequator », voici ce que disait le texte grec. « Le poison redoutable qui donne la purification, l'arme la meilleure pour détruire l'ennemi. Sers-toi des personnes humbles, viles et laides, tire plaisir de leurs défauts. Elles ne doivent pas mourir. Pas dans les demeures des nobles et des puissants, mais à partir des villages des paysans, après abondants repas et moult libations, des corps trapus, des faces difformes. Ils violent des vierges et couchent avec des ribaudes, pas mauvais, sans crainte. Une vérité différente, une différente image de la vérité. Les vénérables figuiers. La pierre éhontée roule dans la plaine, sous les yeux. Il faut rouler et surprendre en roulant, dire les choses contraires à celles qu'on croyait, dire une chose et en entendre une autre. Pour eux, les cigales chanteront depuis la terre. » Rien d'autre. À mon avis, trop peu, presque rien. On aurait dit les divagations d'un dément, et j'en fis part à Guillaume. Il se pourrait, et il semble sans nul doute plus dément qu'il ne l'était à cause de ma traduction. Je connais le grec assez approximativement, et toutefois, à supposer que Venantius fût fou, ou fou l'auteur du livre, on ne saurait pas pour autant pourquoi tant de personnes, et point toutes folles, ont tant fait d'abord pour cacher le livre, et ensuite pour le récupérer. Mais les choses qui sont écrites ici, elles proviennent du livre mystérieux. Il s'agit à n'en pas douter de choses écrites par Venantius. Tu le vois, toi aussi, il ne s'agit pas d'un vieux parchemin. Et ce doivent être des notes prises en lisant le livre, autrement Venantius n'eût pas écrit en grec. Il a certainement recopié, en les abrégeant, des phrases qu'il a trouvées dans le volume dérobé au Finis Africae. Il l'a emmené dans le scriptorium et a entrepris de le lire, tout en notant ce qui lui semblait digne d'être noté. Puis, il est arrivé quelque chose. Ou il s'est senti mal, ou il a entendu quelqu'un monter. Alors il a remisé le livre avec ses notes sous sa table, se promettant probablement de le reprendre le lendemain soir. Dans tous les cas, ce n'est qu'en partant de cette feuille que nous pourrons reconstruire la nature du livre mystérieux, et ce n'est qu'à partir de la nature de ce livre qu'il sera possible d'inférer la nature de l'homicide. Car dans chaque crime commis pour la possession d'un objet, la nature de l'objet devrait nous fournir une idée, aussi pâle fût-elle, de la nature de l'assassin. Si on tue pour une poignée d'or, l'assassin sera une personne avide. Pour un livre, l'assassin n'aura de cesse qu'il ne cache aux autres les secrets de ce livre. Il est donc nécessaire de savoir ce que dit le livre que nous ne possédons pas. Et vous, serez-vous en mesure, à partir de ces quelques lignes, de comprendre de quel livre il retourne ? Cher Atso, ces mots semblent ceux d'un texte sacré dont la signification va au-delà de la lettre. En les lisant ce matin, après que nous avons parlé avec le scélérier, j'ai été frappé du fait que là aussi, il est question en partie de gens simples et de paysans, comme porteurs d'une vérité différente de celle des sages. Le scélérier a laissé entendre que quelque étrange complicité le liait à Malachi. Malachi aurait-il caché certains textes hérétiques dangereux que Remigio lui avait confiés ? Alors, Vénantius aurait lu et annoté quelques mystérieuses instructions concernant une communauté d'hommes frustres et vils en révolte contre tout et tous. Mais il y a deux faits contre cette hypothèse. L'un, c'est que Vénantius ne paraissait pas intéressé par ce genre de questions. Il traduisait des textes grecs et ne prêchait pas les hérésies. L'autre, c'est que des phrases comme celle des figuiers, de la pierre ou des cigales ne pourraient s'expliquer par cette première hypothèse. Ce sont peut-être des énigmes avec une autre signification, suggérais-je. Ou bien avez-vous une autre hypothèse ?
J'en ai une, mais confuse encore. J'ai l'impression, en lisant cette page, d'avoir lu certains de ces mots, et des phrases presque identiques que j'ai vues ailleurs me reviennent à l'esprit. Il me semble même que cette feuille parle de quelque chose dont on a déjà parlé ces jours-ci. Mais je ne me souviens pas de quoi.
Il faut que j'y pense. Peut-être me faudra-t-il lire d'autres livres.
Pourquoi donc ? Pour savoir ce que dit un livre, vous devez en lire d'autres ?
Parfois, oui. Souvent, les livres parlent d'autres livres. Souvent, un livre inoffensif est comme une graine qui fleurira dans un livre dangereux, ou inversement, c'est le fruit doux d'une racine amère. Ne pourrais-tu pas, en lisant Albert, savoir ce qu'aurait pu dire Thomas ? Ou en lisant Thomas, savoir ce qu'avait dit Averroès ?
C'est vrai, dis-je plein d'admiration.
Jusqu'alors, j'avais pensé que chaque livre parlait des choses humaines ou divines qui se trouvent hors des livres. Or, je m'apercevais qu'il n'est pas rare que les livres parlent de livres, autrement dit qu'ils parlent entre eux. À la lumière de cette réflexion, la bibliothèque m'a paru encore plus inquiétante. Elle était donc le lieu d'un long et séculaire murmure, d'un dialogue imperceptible entre parchemin et parchemin, une chose vivante, un réceptacle de puissance qu'un esprit humain ne pouvait dominer. Trésors de secrets émanés de tant d'esprits et survivant après la mort de ceux qui les avaient produits, où s'en étaient faits les messagers.
Mais alors, dis-je, à quoi sert de cacher les livres si on peut remonter des visibles à ceux qu'on occulte ?
À l'aune des siècles, cela ne sert à rien. À l'aune des années, des jours, cela sert à quelque chose. De fait, tu vois à quel point nous sommes désorientés.
Et donc une bibliothèque n'est pas un instrument pour répandre la vérité, mais pour en retarder l'apparition, demandai-je pris de stupeur.
Pas toujours et pas nécessairement. Dans le cas présent, elle l'est.